Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi de Pâques. Si ce n'est que nous pensions initialement parler football, c'est le but, hein, sans mauvais jeu de mots, de cette émission. À la place, nous allons une nouvelle fois vous parler d'envahissement de terrain et de bagarre. Pour la deuxième fois consécutive, Lyon a vu en France l'une de ses rencontres pourries par la violence venue des tribunes. Cette fois, c'est la Corse qui a été le théâtre d'incidents très graves avec des joueurs lyonnais pris à partie par des supporters, mais pas que. Nous reviendrons sur ce qui est malheureusement l'événement ballon rond du week-end. Il y a également de belles histoires à raconter dans l'Hexagone. Je vous rassure, celle des coups francs de Falcao, par exemple, celle de Nice, l'une des équipes les plus sympathiques de la Ligue 1, qui s'est assurée une place sur le podium en fin de saison. Bonjour Marc Libra.
Bonjour.
Vous êtes prêt à dire du bien de vos voisins monégasques et niçois?
Mais
et à dire
oui.
Du mal des Corses aussi?
Pourquoi dire du mal des Corses? On va en parler, pas bien de dire de mal. On va expliquer, raconter tout ce qu'on a pu voir.
Exactement, de manière apaisée, vous avez raison.
Exactement.
En Angleterre, les Blues de Chelsea peuvent-ils perdre le titre? Les Red Devils de Manchester United retrouveront-ils le Big Four? Autant de questions auxquelles il faudra répondre. Salim Bangali, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez les réponses à mes questions?
Oui.
Parfait, on voit ça en deuxième partie d'émission. Enfin, le premier derby milanais aux accents chinois a accouché d'une belle rencontre samedi en Italie avec une belle exposition au passage pour la Goal Line Technology. On en parlera en fin d'émission avec un fan de la Goal Line Technology, un fan de l'arbitrage vidéo, de la technologie en général. Gilles Verdez, bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci à Julien Leng aux manettes et à David Finzel derrière la vitre. Radio Foot, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici au stade Armand Cesari à Foriani pour la suite, normalement, de cette 33e journée de Ligue 1, parce que ça risque, Patrice Ferry, d'être malgré tout perturbé.
Avec Abdelhamid, on imagine bien les difficultés qui ont été les vôtres pour rentrer dans cette partie. On a vu des Bastiais très costauds, très solides, peu inquiétés cette première mi-temps.
Ouais, bah écoutez...
C'est quand même terrible.
C'est quand même terrible, ces images, Pierre-Yves, on l'a bien sûr tout stoppé parce que là, ça ne peut plus durer et ça ne peut plus se poursuivre, tout simplement ici à Armand Cesari. C'est une scène qui n'est plus regrettable, qui est tout simplement condamnable et qu'on ne veut plus voir.
À la fin de cette mi-temps, à nouveau, les mêmes supporters sont venus agresser Anthony Lopez. Il y a dépassé l'entendement, c'est que la sécurité, en particulier le directeur de la sécurité de Bastia, a frappé lui-même, Anthony Lopez. Deux autres stadiers ont frappé des joueurs. Il a été identifié, on a déposé plainte près du procureur en deuxième mi-temps et à l'aéroport.
C'est la moindre des choses de condamner de manière très ferme les événements de ce jour. Et même si la Ligue a sorti de son côté un communiqué, on sait ce qu'on a à faire. On est des dirigeants responsables. Ce soir, on porte la responsabilité de beaucoup de choses. Et encore une fois, je le dis, on se travaille et on prendra les décisions qui s'imposeront. Il ne faut pas oublier que ce qui est important aujourd'hui, c'est la survie du club.
De la violence avant le coup d'envoi, des supporters bastiais qui s'en prennent à des Lyonnais pendant l'échauffement, puis de la violence à la pause avec de nouveau des supporters corses, mais pas que, des stadiers également qui s'en prennent à des joueurs de l'OL. En raison de ces incidents, le match entre Bastia et Lyon de ce dimanche 16 avril, 33e journée de Ligue 1, n'est pas allé à son terme. Ces événements font écho à ce qui s'est passé jeudi en Europa League à Lyon, justement avant le match face au Beşiktaş. Il rappelle également que le stade Armand Cesari ou Furiani, comme vous voulez, de Bastia est parfois loin d'être un théâtre des rêves. On se rappelle notamment des insultes racistes à l'encontre du niçois Mario Balotelli. C'était déjà cette saison. Votre réaction à ces incidents qui ont fait la une, peut-être pas, mais qui ont été relatés un peu partout en Europe. On n'en a pas parlé qu'en France. Votre réaction 24 heures après, Gilles, est-ce que vous êtes toujours aussi dégoûté? Parce que j'imagine que ça a pu vous dégoûter, ces images.
Oui, alors ce qui est inacceptable, bon, il n'y a pas de gradation dans la violence sur et autour des terrains de football. Ce qui est inacceptable là, c'est quand on est pris physiquement aux joueurs. Or, les joueurs, il y a un côté sacralisé. C'est-à-dire que si maintenant les acteurs du spectacle sont menacés par des gens comme ça, que ce soit des supporters ou autres, de pseudo-supporters, là, à ce moment-là, on peut plus du tout...
C'est la ligne jaune.
Oui, on peut plus, ou rouge, on peut plus du tout exercer la profession. Donc ça choque. Bon. Ce que je veux dire, moi, c'est que c'est toujours sensible pour moi le sujet corse, que comme j'étais à Furiani en 1992, j'ai toujours beaucoup d'indulgence vis-à-vis des
Corses. On rappelle
Corses,
cette tribune,
la catastrophe, voilà, la chute de la tribune, des morts et des blessés. Donc j'ai vu les Corses souffrir, j'ai vu la pérennité de leur amour pour le foot. Donc ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas globaliser. Oui, il y a des dérapages inacceptables, mais il faut pas jeter totalement ni condamner le football en Corse.
Malheureusement, Bastia, qui est dernier de Ligue 1, qui joue sa survie. On a entendu dans notre petit montage le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, mais aussi M. Géronimi, le président de Bastia. C'est pas le premier incident qui implique des supporters corses cette saison, mais et pas que.
Et c'est ça. Alors Gilles l'a très bien dit, pas d'amalgame. Évidemment, ce ne sont pas tous les supporters de Bastia qui sont comme ça. C'est là encore un groupe. Le souci, c'est que en tout début de présentation du thème, vous avez déjà évoqué ces insultes racistes envers Mario Balotelli. Et chaque saison, on le répète, chaque saison, il y a des incidents à Furiani, soit pour des insultes racistes, soit pour d'autres types d'incidents. Enfin, à chaque fois, on parle de Bastia. Chaque année, il y a toujours... On a l'impression que chaque année, Bastia a des points de retrait, a des amendes, a des tribunes en partie fermées. Chaque année, ça se passe. En fait, on attend juste qu'il y ait un mort. On attend juste qu'il y ait...
Vous pensez que ça peut aller jusque-là ?
Aujourd'hui, mais c'est très grave ce qui s'est passé. Les joueurs... Donc, alors, est-ce qu'il y aurait pu avoir blessure ou autre ? En tout cas, ils ont été menacés tel quel. Hein. Ils auraient pu être effectivement frappés.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que même des gens payés pour assurer leur sécurité, voilà. C'est intéressant, c'est plutôt intéressant pour notre débat, on va dire, sont impliqués dans ces violences envers les joueurs.
Totalement, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tant qu'on continuera d'être à Furiani, parce que c'est Didier Quillot qui en parlait aussi, l'un des membres évidemment du board de l'AFP, qui expliquait ce matin qu'aujourd'hui c'est compliqué désormais de pouvoir jouer peut-être à Furiani. À un moment donné, il va falloir peut-être se poser des questions aussi sur ce stade,
alors,
sur
les
la
Corses,
sécurité autour du stade.
Les Corses se plaignent souvent, Marc Libra, d'un mauvais traitement de la part des instances françaises. Salim pointait, je l'ai fait aussi, pointer leur responsabilité lors de certains incidents, et là elle est assez notable, assez flagrante. Hier, peut-on encore défendre, comme voudrait le faire Gilles, football à Bastia, un club, le Sporting Club de Bastia ?
Non, mais il faut pas, c'est pas question de défendre, il faut juste attraper les personnes qui sont capables de faire ça. On va juste se rappeler que, Salim a absolument raison, depuis plusieurs saisons, il y a toujours des petits incidents, mais c'est tout petit. Mais on n'en tient pas qu'à. Les instances du football n'en ont rien à faire. On va se rappeler que la première journée, il y a Lucas qui prend un bâton. S'il le récupère dans la nuque, qu'est-ce qu'on fait ? Cet incident hier, je suis devant la télé. Qu'est-ce qu'il fallait hier qu'un Lyonnais se fasse couper la tête pour qu'il puisse réagir ? C'est-à-dire que on est allé dire, le délégué a expliqué à Monsieur Aulas, et c'est Monsieur Aulas qui est allé après au créneau. Il faut jouer autrement, c'est plus grave. Mais c'est plus grave de quoi ? Mais vous avez vu ça où ? Des mecs ont sauté, mais tranquillement ils ont sauté. Ils sont allés agresser et puis ils sont revenus s'asseoir tranquillement, comme si de rien n'était. Le problème, il est où ? Hier après-midi, on a Carasso qui a failli prendre un fumigène en pleine tête.
Alors il est tombé. C'était Bordeaux.
C'est Bordeaux contre Nantes. Là, il y a pas de problème. Il y a à peu près 3-4 mois, on a eu l'histoire à Metz sur Lopez, encore une fois, des fumigènes.
Le gardien lyonnais, hein.
Les lyonnais. C'est pas forcément que. Mais les instances font quoi ? Les instances font quoi du football ? À quel moment ils vont réagir ? Et on nous explique qu'on va réagir. Mais il y a pas à réagir. C'est ce matin, on se réunit. Et on tape du poing et on fait. C'est comme ça. Et on n'attend pas 3-4 mois l'histoire de Metz. Personne ne se rappelle l'histoire de Metz. Qu'est-ce qui s'est passé à Metz ? Ah ben il y a juste Lopez qui a failli prendre un pétard et perdre. Ah faut arrêter.
Et c'est pour ça que je vous dis, qu'il faut presque attendre un mort en fait. Pour que tout d'un coup on se dise, oh là, là c'est grave. Ça me rappelle de manière très grave ce qui s'était passé à l'époque au Paris Saint-Germain.
Exactement.
Évidemment, il a fallu qu'un supporter décède.
Avant un plan d'assainissement.
C'est la même chose.
La mort.
Et je précise, moi je vais aller plus loin que Marc. C'est la même chose avec Bastia. Ouais. Bastia, ça arrive beaucoup trop souvent ces incidents.
Gilles.
Alors je suis d'accord avec mes collègues sur un point précis, c'est que en ce moment la Fédération française de football est très bien géré de mon point de vue par Noël Le Graët, mais la Ligue, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, on ne sait pas qui dirige. Ce sont pour moi des incapables, tous autant qu'ils sont.
Alors on va dire qu'il y a deux têtes, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le contexte. Il y a une présidente, Nathalie Bois de la Tour.
Sans doute.
Et un directeur général, je crois que c'est son titre,
peut-être,
qui s'appelle Didier Quillot.
Donc deux, ça fait zéro. Ça s'annule. Et comme il n'y a personne, il n'y a pas de décision. Donc effectivement, ça s'accumule. Je suis tout à fait d'accord. On n'attend pas normalement jeudi là, la réunion d'une commission. C'est hier dans la nuit et ce matin tôt qu'on se réunit, qu'on prend des sanctions ou des décisions ou qu'on essaie d'anticiper parce qu'il faut sévir, mais il faut arrêter pour que ça ne se reproduise plus. Et comme il n'y a pas de pouvoir dans le football professionnel, eh bien... les événements comme ça s'enchaînent sans qu'il y ait de décision.
Donc si je vous suis, la responsabilité elle est plus au niveau des instances qu'au niveau de Bastia.
Attention, les premiers responsables, ce sont d'abord ces personnes qui font ces gestes-là. Évidemment, ça c'est
donc
un fait.
Donc les supporters, enfin en tout cas les supporters présents voilà. Hier.
C'est pour ça que je parle des événements de Nantes, des événements qui ont eu à Metz. C'est pour ça que mais quoi qu'il arrive, on peut se permettre aujourd'hui de faire ça dans un stade, de blesser, parce qu'à Metz, c'était quand même très grave ce qui se passe. Carasso, si hier, il apprend en pleine tête, on fait quoi?
On rappelle, à Metz, c'était un pétard
Est-ce qu'on a récupéré le mec qui a balancé le fumigène? Ben, on a fait le match, mais il n'y a pas de problème. Salim était en Angleterre. En Angleterre, s'il se passe le moindre truc, moi, j'ai fait l'imbécile. Le lundi, j'étais convoqué, ils m'ont coupé la tête le lundi direct. Croyez-moi, j'ai arrêté, j'avais agressé un mec en plein match. Je pensais qu'on m'avait pas vu. Le lundi, ils m'ont chopé. Croyez-moi, j'ai jamais plus agresser un mec sur le terrain. Alors, quand j'ai agressé, c'est que, il m'a ébranché un peu, on s'était chauffé. Mais j'ai pas attendu 3 mois, 4 mois de passer en commission. Ça a été instantané.
Gilles,
après,
un dernier mot là-dessus.
Il y a aussi, pour moi, une responsabilité en amont. C'est celle de l'ancien entraîneur de Bastia, monsieur Ciccolini, qui avait en quelque sorte, non pas menacé, mais il avait prévenu les Lyonnais,
que le retour
ne soyez pas grippés, on va
viril.
Régler ça entre hommes. Non, entre hommes, c'est pas ça. Entre corps, c'est pas ça. Là, il avait fait une erreur majeure.
Je voudrais qu'on parle un peu des Lyonnais, donc je l'ai rappelé, quand même vécu une drôle de semaine, deux matchs, deux coups d'envoi largement retardés par des envahissements de terrain. Alors même si les conditions de ces envahissements de terrain sont différentes, mais comme vous écoutez Radio Foot, vous savez de quoi on parle. Comment les Lyonnais peuvent-ils se remettre d'une telle semaine, sachant que le meilleur est peut-être à venir, puisqu'ils vont en Turquie, alors pas avec leurs supporters, mais les joueurs vont en Turquie disputer leur quart de finale retour d'Europa League face au Beşiktaş, dans un contexte politique très compliqué après un référendum ce dimanche. Les Lyonnais, ça va aller travailler là pour cette fin de saison, eux qui sont quatrième de Ligue 1 et très ambitieux sur la scène.
Ça fait beaucoup. Là, Jean-Michel Aulas qui est sur tous les fronts, il faut quand même lui rendre hommage parce qu'il prend lui ses responsabilités. Il va devoir effectuer un vrai travail auprès de ses joueurs qui n'avaient pas envie de jouer là, qui, à mon avis, vont commencer à sentir psychologiquement une fatigue, une nervosité à cause de l'enchaînement de ces situations.
Et dans ce stade du Beşiktaş, alors où la pression est connue hein, par les supporters de cette équipe, qui vraiment est une équipe, des supporters qui soutiennent énormément leurs joueurs. Ben, est-ce que les Lyonnais vont réussir à tenir face à cette pression populaire du Beşiktaş? Là, on ne parle pas de violence, hein, puisque les supporters lyonnais ne seront pas là, donc il y aura vraiment une pression de la part de ces joueurs. Mais là, cette pression-là, on l'a vu, et c'était une pression malsaine, en l'occurrence à Bastia, avec ce qui s'est passé lors du match aller déjà. Ben là, ça va être quelque chose de très intéressant à voir, et c'est aussi sur ça que la clé du match peut exister.
Marc, quand on est joueur et qu'on voilà, l'extra sportif prend autant de place dans des rencontres à un moment aussi important de la saison, comment on fait pour se remobiliser, faire abstraction?
C'est très difficile. On a vu le cas de Dortmund qui a réussi, je sais pas comment ils ont fait sur la seconde période, Dortmund à pouvoir jouer, à essayer d'évoluer un petit peu, mais sur la première période ils sont carrément
face à Monaco,
absents
hein,
face
en
à
Ligue
Monaco,
des Champions après des attaques
absents.
Contre leur but.
Mais quand on voit Beşiktaş, ce qui s'est passé à Lyon, enfin, on se doute bien que c'est pas quand même les supporters lyonnais qui ont déclenché la chose. On a vu des fumigènes qui partent sur la tribune tout blessés des mecs. On va rappeler que heureusement que le stade de Lyon a été refait, donc il n'y a pas de grillage, les gens ont pu sauter directement, parce qu'on se rappelle à une certaine époque quand il y a des grillages, mouvement de foule, certains se sont écrasés. Là, eh ben heureusement ils ont l'intelligence de les laisser passer. On est passé près de la catastrophe et là on me dit ils vont devoir faire un match jeudi là-bas avec le couteau entre les... Non mais là c'est pas possible, on peut pas les jouer. Vous savez ce qu'on fait, Beşiktaş? Vous êtes gentil, mais là il faut qu'on arrête les garçons. Eh ben 1 an, 2 ans, c'est plus possible. Je suis désolé, mais
vous êtes pour des solutions assez drastiques.
Mais vous êtes joueur lyonnais, vous avez envie de... Mais là dans quel état, comment ça va se passer? J'ai joué en Turquie, j'ai joué en Grèce en Coupe d'Europe. On arrive là-bas, on se fait canarder dans tous les sens. Et nous, il n'y avait pas eu de mouvement de foule à ce niveau-là. Mais là, ça va être quoi? Avant le match, mais ça va être la sortie le matin 11h. Il n'y en a pas de sortie. Vous sortez, on le sait, on reste dans l'hôtel, on attend. Mais ça va être... Alors s'ils passent, il faut leur décerner une médaille parce qu'ils sont très très costauds. C'est pour ça que c'est trop facile, j'ai envie de vous dire, le match il est presque déjà joué parce que il va se passer des trucs, c'est énorme quoi. On peut se dire on est sur le terrain, on craint rien, mais là peut-être qu'on se dit finalement on craint. Ce qui s'est passé chez nous, ce qui s'est passé à Bastia, peut-être qu'on craint.
On rappelle hein, que les Lyonnais, pour l'instant, sont en tête hein, dans cette double confrontation. Ils mènent, ils mènent 2-1 à l'issue du match aller. On va retrouver un peu le sourire. On va remonter tout le classement. Bah, on passe de Bastia à Monaco. Oui, alors là, on gagne 19 places. Monaco, le leader qui s'en sort face à Dijon. Alors merci qui ? Merci Falcao. Et qui a rendu un hommage à Juninho.
Falcao qui pose bien ce ballon. Allez, Falcao, c'est lui qui va le frapper. Et magnifique ! Magnifique, le tigre qui surgit encore, qui rugit toujours, même si le but est peut-être accordé à Dimar.
Je pense que c'est Dimar qui marque.
Eh bien, voilà, souvenez-vous, il y a 10 minutes de cela, Falcao. Exactement au même endroit, on avait aussi un Benjamin Mendy qui était parti et voilà Falcao qui plaçait aussi son ballon, qui le replace à nouveau, qui se concentre, Thomas Lemar est à ses côtés. Ah si, il exécute le même coup franc. C'est du génie.
S'il met le même coup franc, c'est pas du génie.
C'est plus que ça, plus que du génie, c'est quoi alors?
Il faut qu'il trouve la lunette de l'autre côté.
Voilà, exactement.
La fin du regard dans un premier temps.
Le génie, c'est aller chercher l'autre lunette.
Falcao, épisode 2, Falcao. Wow.
C'est ça le génie.
Il était une fois sur le rocher avec le concours de nos confrères de Canal+, Monaco et Falcao, double buteur ce samedi, deux coups francs pour El Tigre. Sur le premier, lucarne droite, le ballon rebondit sur la barre et le gardien avant d'être poussé dans le but par Dirard. Et sur le deuxième, bah, il trouve la lunette de l'autre côté, pour citer notre confrère. Il tire sur la gauche de René, le portier dijonnais qui ne bouge pas. Ça fait 18 buts pour le Colombien en Ligue 1 cette saison. Il a permis, alors qu'il était entré en jeu à l'ASM, de reprendre l'avantage face à Dijon, puisque l'ASM était menée de la 42e à la 69e. Si même Falcao se met à marquer des coups francs, que peut-il arriver à l'AS Monaco, Gilles?
Bah, c'est bien géré de la part de Jardim notamment, parce que c'est vrai qu'ils ont en perspective les suites de la Ligue des Champions qui peuvent être brillantes. Et voilà, il fait entrer Falcao, Falcao fait la décision. Donc pour le moment, j'ai l'impression que Monaco retarde à chaque fois l'échéance. Après la première finale perdue, on s'est dit Monaco peut-il tout perdre? Là, quand Dijon marque, on se dit oh bah peut-être que Monaco est... Et non, à chaque fois il retarde. Alors jusqu'à quand, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même qu'en championnat, avec la marge de 3 points qui perdure et l'énorme différence de but en faveur de Monaco, ça fait 4 points quasiment. J'ai l'impression qu'ils sont en train petit à petit de construire un titre de champion de France en apogée.
3 points d'avance sur le PSG qui s'est imposé 2-0 à Angers, Salim.
Et techniquement, il faut quand même être au-dessus du lot pour réussir ces coups francs là. Alors Radamel Falcao, nous nous avait absolument pas habitué à cela.
C'est ça qui a l'impression. C'est pour ça que je disais hommage à Juninho. Juninho, c'était normal de le
mais
voir
on
réussir.
On a surtout l'impression de retrouver clairement le Falcao, non pas du premier passage à Monaco qui avait été en fait brillant jusqu'à sa blessure, ou plutôt bon en tout cas, mais surtout celui qui était à l'Atlético Madrid, là qui réussissait tous ses dribbles passaient dans la surface de réparation et il marquait des buts de génie. Ce Falcao là est bien de retour. Vous avez évoqué les buts marqués en championnat, également les buts clés en Ligue des Champions. Falcao est revenu plus qu'un leader. Enfin, il a démontré qu'il était le leader technique et même le leader tout simplement de cette équipe de Monaco.
Oui, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, la plupart des joueurs, quand Falcao n'est pas là, ils parlent beaucoup de l'importance de Falcao. Pour moi, Germain est beaucoup plus important, mais on l'a vu qu'une fois de plus, Falcao sait faire la différence. Jardim a été très bon, il sort 4 joueurs habituellement pour faire tourner, donc 4 nouveaux joueurs qui rentrent et on voit pas forcément la différence. Première mi-temps un petit peu dans le jus, puis sur la seconde, la machine se met en route parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Germain a fait son 50e match de la saison. Et puis après, pourquoi on prend un joueur comme Falcao? Pourquoi on paye plus de 60 millions pour un Falcao, pour ce genre de geste? Si Monaco est champion, on va se rappeler. Vous rappelez, Falcao, il est rentré, tac, il met 2 buts. Ça fait partie de l'histoire, on se rappellera de ça. Les grands joueurs sont là pour ce genre de choses. Quand on achète de tels joueurs, c'est pour ce genre de choses. Et lui, en tout cas, il a répondu présent. Mais attention, la saison n'est pas finie. Attention.
Mais la saison n'est pas terminée. On le sait.
La seule restriction par rapport à Falcao, pour moi, c'est que c'est très brillant sur 30 minutes. Falcao ne peut plus faire une saison complète avec tous les matchs. Il a plus cette capacité de leader tout au long d'une saison sur l'ensemble des compétitions. Ça se résume à des coups très brillants, des coups fantastiques, mais des coups.
On en reparle de la Ligue 1 après les informations. À tout de suite sur RFI.
Bonjour.
Radio Foot International. Hugo Moissonnier.
Radio Foot, la deuxième partie. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Gilles Verdez, de Marc Libra et de Salim Bangali.
Vous avez fait une saison fantastique, d'accord ? Fantastique par les pieds, vous avez super bien joué au ballon, fantastique par l'état d'esprit. Maintenant, il reste 5 matchs. On lâche rien, hein. Il peut y avoir un petit faux pas, et celui-là on le prend.
73 points, 73, c'est quelque chose. Ouais. Et puis, qu'on continue comme ça, il nous reste 5 matchs, qu'on continue à jouer. Bravo à l'équipe. Je suis content, mais j'aimerais quand même qu'on améliore certaines choses. On prépare tous les matchs pour les gagner. On va continuer la même philosophie.
Ah oui, il est content. L'entraîneur suisse de Nice, Lucien Favre, content comme son président, Monsieur Rivière. Nice, 41 ans plus tard, le club azuréen est assuré de terminer sur le podium de la Ligue 1, la Ligue des Champions, tout du moins sa phase de poule. Ce n'est pas encore fait, mais tout de même, la joie est grande pour les joueurs, le staff, l'entraîneur, les supporters. Nice s'est imposé 3-1 face à Nancy ce week-end avec un doublé au passage de l'Ivoirien Jean-Michel Seri en lice.
Pour le prix Marguerite,
fouet du meilleur joueur africain de Ligue 1. On verra ça. On l'accueillera avec plaisir si
pas
jamais.
Très 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 loin.
Si jamais il venait à gagner. Les votes sont en cours. On a le temps d'en reparler. Alors Seri, il en est à 6 buts et 9 passes décisives. C'est un petit peu un symbole, hein, ceci dit, de le voir décisif là pour ce match décisif. Lui aussi, ça a été vraiment l'un des meilleurs joueurs de Nice cette saison.
Il fait partie des références depuis la saison passée. Il ne faut pas oublier, quand il est parti à la CAN, Nice n'est pas forcément arrivé à gagner, mais ils n'ont pas perdu. On a vu un changement dès qu'il est. En plus, dès son retour, il marque sur un but contré un petit peu moche, mais il marque. Et Nice s'est relancé. Il faut savoir que Nice a eu quand même pas mal de blessés, d'absents très importants, attaquants, milieu de terrain. Et Seri, tiens.
On peut les citer. Deux grands artisans de la bonne première partie de saison. Willian Cyprien et puis Alassane Pléa. Avec eux, Nice est champion d'hiver. Quand même.
Et justement, Willian Cyprien qui formait ce duo avec Jean-Michel Seri au milieu de terrain. Sans lui, on se posait des questions ces dernières semaines. Est-ce que, en tout cas, lors de la blessure de Willian Cyprien, comment Jean-Michel Seri pourrait tenir au choc? Eh bien, on l'a vu et on le voit avec cette qualification. Pour au moins le tour premier de la Ligue des Champions, eh bien, il tient plus que bien le choc.
Gilles, est-ce qu'on peut dire que c'est mérité? Oui, évidemment, cette équipe de Nice. J'ai dit que c'était l'une des plus sympathiques de Ligue 1. Avec raison.
Mais c'est vrai, et en ces temps de tensions et d'événements tristes et dramatiques, ça fait plaisir parce que c'est du football, ce n'est que du football, mais c'est du vrai football, c'est du jeu. C'est vrai qu'ils ont réussi à continuer à engranger des points malgré les absents, alors que certains les voyaient s'écrouler après la trêve hivernale. Alors, c'est magnifique, juste à contrario, je dirais quand même que c'est l'illustration de la faiblesse insigne de certaines grandes cyladrées du championnat, qui devraient, en des temps normaux, être à la place de Nice.
Lyon, par exemple.
Lyon qui est quatrième. Marseille.
Bon, on en parle juste après. Hein.
Voilà, non, mais même d'autres. Mais c'est la résultante quand même, pour moi, avec toutes les qualités de Nice que je ne retire pas. C'est la résultante d'une Ligue 1 qui, cette saison, est l'une des plus médiocres que j'ai jamais vue.
Mais il y a progression pour Nice, ça c'est quand même intéressant.
Oui, je ne m'estime pas.
Quatrième l'an passé, ils perdent Claude Puel, Ben Arfa, ils gagnent Balotelli, ils gagnent Favre, et ils progressent.
Ils perdent Mendy, ils perdent Pied, enfin ils en perdent pas mal de joueurs.
C'est qu'il y a un projet cohérent.
C'est qu'il y a un projet qui a été mis en place, qui a été préparé par Puel en amont depuis 3 voire 4 ans. Favre est arrivé et dans le même état d'esprit. Puis ça tourne pas mal. Après, c'est vrai que cette équipe-là, si on se réfère... Gilles, je te trouve un peu dur parce que c'est vrai
un
que...
Un peu, c'est vrai.
Cette équipe-là... allez, on prend l'équipe qui nous a régalé cette saison. C'est Monaco et c'est Nice dans le jeu. Ce sont les deux équipes. Après Paris, ça a été plus difficile. Mais Paris est toujours deuxième, Nice troisième, Monaco. Donc, c'est vrai que notre saison, alors on va oublier Marseille, Bordeaux, tout ça, Saint-Etienne, ça a été catastrophique. Je pense qu'ils sont à leur place aujourd'hui parce que leur niveau est très moyen. Mais c'est vrai que Nice, depuis 2 ans, alors on disait beaucoup, ah, c'est grâce à Ben Arfa. Non, il y avait des joueurs qui jouaient pour Ben Arfa et qui le rendaient bon.
Notamment.
Le problème de Ben Arfa aujourd'hui, en série, enfin il y en avait
et notamment
beaucoup.
En série dont on parlait, Nice 3e, 73 points. Alors C'est un point de moins que le PSG, 4 points de moins que Monaco, avec un match de plus que ces deux équipes, un match de plus disputé. Nice est-il condamné, l'équipe de niçoise est-elle condamnée à la 3e place ou peut-être visée plus haut?
Je vous rappelle qu'il y a un Nice-PSG prochainement en championnat tout de même. Alors certes, il y a les fameux matchs en retard pour le Paris Saint-Germain et pour l'AS Monaco. Si le PSG vient à gagner son match en retard, un match en retard n'est pas un match gagné. Vous pourriez avoir donc 4 points ou pas donc d'avance pour le PSG. Nice pourrait revenir encore une fois à un point, donc rien n'est fait pour cette 2e place. Nice a encore potentiellement
donc le discours mobilisateur du président Rivière qu'on
c'est
entendait
en fait, c'est
il y a
crédible.
Quelques instants, c'est un message qui va passer. Les joueurs ne vont pas se contenter de cette 3e place.
Ce qui est très bien à Nice, c'est qu'il y a une dynamique de club. Vous avez raison de citer le président. On a un entraîneur qui est là depuis peu de temps, mais qui commence également à construire, qui a envie de s'investir, qui a un entraîneur tacticien avec un projet. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a une équipe qui suit, il y a un stade, il y a des gens qui viennent au stade. Donc voilà, il y a une dynamique qui se crée positive autour de Nice.
Allez, on reste dans le sud de la France. On va faire plaisir à l'un de nos consultants, les OPAC de Marc Libre.
Payet, toujours sur son très disponible. Il est beau ce ballon. Thomas avec Bafé Gomis, oh ça c'est magique, quel but de Bafé Gomis, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et celle-là elle est partie avec Florian Thauvin face à Théophile Catherine, il a fait la différence, et il tourne vite et but. Allez peut-être un quatrième,
le succès concluant de l'OM face à Saint-Etienne, 4-0. 17 buts pour Gomis, hein. Il a marqué hier. On peut peut-être le sortir de ce match. L'individualité peut-être qui en sort le plus de ce match avec Thauvin.
Ouais, oui, ça serait bien que les dirigeants se arrêtent de réfléchir sur le cas Gomis, puisque c'est quand même un mec qui est capable de marquer plus de 20 buts par saison. Aujourd'hui, il se pose la question, est-ce qu'on doit lever l'option d'achat ou pas? On va leur préciser que sans Gomis, un monsieur qui aime un peu plus de un trentenaire qui soi-disant est vieillissant leur a mis 17 buts. Donc il faut à tout prix, ils veulent construire, c'est très bien. On parle de Thauvin, de Sanson, qui est devenu d'ailleurs meilleur passeur hier avec 11 passes. Il a dépassé série.
Meilleur passeur de Ligue 1,
il a dépassé série grâce à ses deux passes. Thauvin qui est en train d'exploser. Maintenant, attention, on va se rappeler Toulouse, Dijon, LOSC, où je me suis endormi devant la télé, et je ne sais même pas ce qui s'est passé. Non, mais c'était il y a 3 matchs.
En tout cas, là, c'est l'un des matchs les plus concluants de l'OM cette année. Ouais. C'est bon signe, il y a un sprint final, il y a une bataille pour la 5e place. Là, pour l'instant, Bordeaux est devant avec un point de plus. Bordeaux qui s'est imposé à Nantes. C'est quelque chose dont il va falloir
Saint-Etienne
s'inspirer.
Saint-Etienne est parfaite pour
bien
Marseille.
L'OM.
Non, mais c'est pas méchant, mais Saint-Etienne.
Saint-Etienne, c'était un concurrent direct. C'est un concurrent direct pour cette cinquième place.
Ouais, ça fait sur les 6 derniers matchs, c'était quoi? C'est un point, Saint-Etienne, ils avancent plus.
Ils sont pas très en forme. Mais est-ce que c'est un peu le match référence de cette fin de saison? Voilà.
Oui, ok. Je vois que vous voulez absolument. Ok, c'est le match référence de cette fin de saison. Non, mais c'est vrai que Saint-Etienne, ça reflète ce que j'ai dit tout à l'heure sur le niveau moyen. Quand on pense qu'ils sont encore dans la première partie et largement du tableau en voyant le jeu qu'ils produisent, c'est quand même un signe. C'est vrai que bon, pour revenir à Marseille, c'est bien. En plus, c'était la fête des winners. Donc voilà. C'est une journée réussie. De là, en tirer des enseignements, une sorte de rédemption par rapport à l'année très difficile de Marseille, c'est un peu tôt. Mais ça donne des espoirs encourageants pour la reconstruction de Marseille, que l'on attend à grand renfort, 2 millions pour le mercato, mais aussi d'un état d'esprit et d'une volonté de repartir à la conquête.
Oui, les Winners, c'est un groupe de supporters. Hein.
South Winners.
On précise.
South Winners.
87.
Ouais. C'est quel virage? Nord, sud?
Derrière.
C'est derrière. Derrière Marc Libre. C'est ça. Le
truc, c'est, comme Marc l'a dit, vous pouvez pas oublier à un moment donné les 3 matchs qu'il y a eu auparavant face à Lille. À Lille, où c'était une horreur, son nom. À Dijon, face à Dijon.
Où t'as Pelé qui te fait l'arrêt qu'il faut, la claquette.
Exactement.
Exactement.
D'ailleurs, Yann Pelé, c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, mais il a été bon. Il a sauvé cette équipe de l'OM à de très nombreuses reprises. Mais Gomis, d'ailleurs, juste je rappelle une chose, c'est que Gomis appartient à Swansea. Swansea qui a 2 doigts de descendre en Championship. Ouais. Lui, il a pas forcément envie d'y retourner en Championship. Enfin, je suppose, en tout cas. Donc, il va falloir effectivement se poser des questions sur lui qui potentiellement voudrait bien.
Gilles en parlait. On a lu dans la presse ce week-end que Marseille allait aligner les billets, mettre beaucoup d'argent sur le mercato. Gomis, il marque, mais bon, il a 30 ans. Il
ne peut pas le garder en numéro 2. Avoir un Gomis.
Ça, j'en sais rien. C'est la question que je vous pose, justement.
À un moment donné, vous êtes un club qui a donc des ambitions. Vous voulez faire très bien. Vous voulez faire beaucoup de choses en championnat. Être au moins dans le podium, voire au-dessus. Mais vous vous avez besoin d'un banc. Regardez Monaco.
Salim, aujourd'hui, le problème de Marseille, ils n'ont aucun problème offensivement. On l'a bien vu. On sait que ça peut marquer des buts. Par contre, c'est derrière. Attention, il faut vraiment derrière, recruter. Parce que là, Certic, c'est plutôt sympa. Rolando, c'est sympa. On va rappeler que Robert Berić n'a pas tiré au but.
L'attaquant stéphanois,
je crois qu'il a touché 19 ballons sur 93
minutes. Est-ce que la cinquième place, elle est jouable? Et Bordeaux est en forme en 2017. Un point. Marseille est-il à la hauteur de Bordeaux?
Pas, pour moi, pas sur la saison. Je pense que Bordeaux a été quand même un peu plus constant sur la saison. Voilà, une constance, c'est pas toujours extraordinaire, mais il y a un style. Entre les deux. Je voulais revenir.
Je voulais revenir
sur une seconde sur Gomis et le fait de. Salim disait, ça peut être un très bon numéro 2. Juste, encore faut-il trouver un numéro 1 supérieur. Parce que le marché des buteurs, quand on voit que le PSG va l'animer avec Alexis Sanchez.
Et la Coupe d'Europe, justement, ça peut jouer pour attirer
mais à quel prix et qui
la Ligue Europa.
Quelle Coupe d'Europe vous allez attirer un très gros poisson sur la Ligue Europa.
C'est vrai, très bien. La Ligue Europa,
je ne suis pas dirigeant de l'OM.
On va dire cash. La Ligue Europa, est-ce que ça attire aujourd'hui? Non. Les grands joueurs veulent jouer la Ligue des Champions aujourd'hui. Et si vous réussissez à attirer un joueur en Ligue Europa, c'est parce que vous allez aligner des millions et des millions. Enfin, certes, on parle de 50, 60 millions. Enfin, c'est le président qui apparemment l'avait évoqué avec des supporters. 50 millions à 50 millions. Est-ce que vous avez un grand attaquant?
Et pour l'instant, les joueurs qui sûrs seront là. Thauvin, c'est l'homme fort là du renouveau marseillais.
Il y a Vainqueur aussi qu'il faut lever l'option, parce que Vainqueur c'est plutôt pas mal devant la défense.
À la Roma.
Voilà, c'est exactement. Ça. Donc ces joueurs-là, les premiers postes importants, c'est de régler ça. Il y a le débat. Est-ce qu'on garde Pelé? Pas Pelé, on le garde, on le garde pas. Pelé, il a plutôt été pas mal. Ouais, mais attends, la défense qu'il a eue, il a fait 5-6 arrêts.
Est-ce qu'on reprend Mandanda?
Est-ce que Mandanda va revenir ou pas? Il y a plein de postes importants qui doivent être négociés, mais surtout avant de dire on va prendre les attaquants, les ceci et cela, déjà il faut pas prendre de but.
Solidifier la défense.
Voilà.
Donc, et on suivra évidemment le mercato de l'OM sur RFI et ici, et on le commentera ici même dans nos Radio Foot. Allez, je vous laisse avec la Ligue 1, un championnat qui ne trouve pas toujours grâce à vos yeux, surtout aux yeux de Gilles. On va aller en Angleterre, ça va peut-être vous inspirer ça.
Matic. Manchester United break, it's a terrific ball. Rashford in goal side of David Luiz. And he takes the opportunity. 7 minutes in. First blood Manchester United. Marcus Rashford. Good work from Young. David Luiz had to get there ahead of Lingard and did. It's still alive. Herrera deflected, isn't it? 2-0 Manchester United.
33e journée de Première Ligue et José Mourinho qui joue un bien vilain tour à son ancienne équipe. Victoire 2-0 de Manchester United face à Chelsea grâce notamment à l'Espagnol Herrera, passeur décisif pour Rashford à la 7e et buteur lui-même, bien aidé par Kurt Zouma,
le Français.
Il fait une récupération un peu aidé de la main, ça n'a pas été jugé comme tel par l'arbitre, je ne suis pas là pour réarbitrer la rencontre. On parle d'abord de Chelsea, le leader. Deuxième défaite en 4 journées pour les Blues d'Antonio Conte. Salim Bangali, au classement, il ne compte plus que 4 longueurs d'avance sur Tottenham, qui de son côté s'est amusé à Bournemouth. Victoire 4-0. 6 rencontres, il reste 6 rencontres à disputer pour les hommes d'Antonio Conte, pour les deux équipes d'ailleurs. Mais les Blues doivent-ils commencer à s'inquiéter, à paniquer?
Il y a quelques semaines, il y avait 13 points d'écart entre Chelsea et Tottenham.
Ça
13.
Fond.
Oui, moins 9, effectivement, entre ces deux formations désormais. Déjà, en observant le calendrier, il y a un gros match pour Chelsea à venir. Ce sera le déplacement à Everton à la fin du mois d'avril. S'ils réussissent à faire ce qu'il faut, au moins un match nul, ils ont toujours une mini avance, on va dire. En cas de défaite, vous avez Tottenham qui va accueillir notamment le club d'Arsenal. Ce sera juste après le Everton-Chelsea. Tottenham pourrait pourquoi pas revenir à un point de cette équipe des Blues. C'est vrai qu'on s'inquiète, surtout que Chelsea encaisse beaucoup coup de but sur les 10 derniers matchs, pas de clean sheet. Chelsea n'arrive plus à tenir.
Ils n'en font plus.
Ils n'arrivent plus à tenir de leur défense. Et puis même offensivement, Diego Costa, alors qu'on a encensé à juste titre, hein, parce que depuis le début de la saison, il est précieux, mais ça fait 5 rencontres qu'il ne marque plus. Et comme par hasard, quand il ne marque plus, cette équipe a beaucoup plus de mal, même offensivement, à se créer autant d'opportunités. Tout d'un coup, on voit un Eden Hazard qui est moindre, d'autres joueurs également qui le sont. Le seul qui est au-dessus encore du haut, c'est N'Golo Kanté, qui même hier a été encore une fois au-dessus.
Qui a perdu un ballon, non? Sur le deuxième but.
Sur le premier but, d'ailleurs.
Sur le premier but. J'ai plus tout à fait les images en tête. Mais
au-delà de ça, alors, effectivement, il y a perte de balle, mais quand même, il a été au-dessus. Sinon, c'est vrai que cette équipe de Chelsea semble fatiguée, c'est ça qui est étonnant, alors qu'il n'y a qu'une seule compétition pour cette équipe.
Alors, aucune frappe cadrée en 90 minutes, une première depuis 10 ans. Hein.
C'était déjà face à Manchester United.
Comme quoi, ce n'est peut-être pas une coïncidence, Jim.
Ouais, je suis d'accord, il y a un peu de fatigue physique et psychologique. Il y avait l'absence de Courtois aussi, c'est pas pareil sans lui.
Et on a vu pourquoi il était absent. Il s'est blessé lors d'une pub pour la NBA. Il s'est blessé lors d'une opération commerciale et c'est pour cette raison que c'était Begovic qui était titulaire à la place de Courtois.
Donc c'est
le karma,
c'est tout de suite moins bon. Et puis c'est vrai que sur un match, Manchester United et Mourinho, malgré une rotation avant la Coupe d'Europe, eh bien voilà, il a su exactement pointer les faiblesses de Chelsea, un peu déstabilisé en défense, moins de sérénité, des changements de poste, un absent. Et puis voilà, Manchester en a profité, c'est très bien joué pour Mourinho. Son Manchester a manqué de constance tout au long de la saison, mais sur un match, ça peut faire très mal.
Mais ce qu'a fait Mourinho a totalement déstabilisé Chelsea.
On rappelle, hein, Zlatan sur le banc, Mkhitaryan sur le banc, Carrick sur le banc,
Martial, Valencia titulaire, Martial en tribune.
Et mettre Rashford devant, donc la vitesse de Rashford face à David Luiz, face à Gary Cahill. Si vous mettiez Ibrahimovic, forcément physiquement, c'était un autre débat, mais en pointe de vitesse, les défenseurs auraient été devant. Rashford a illuminé cette rencontre.
David Luiz a souffert. Hein.
Exactement, c'est clairement le meilleur match de l'international anglais avec cette équipe de United.
Alors le classement, excusez-moi Marc, juste pour rappeler le classement, il est un peu compliqué, hein, parce que toutes les équipes n'ont pas le même nombre de rencontres disputées. Alors United est à 4 points du Big Four, avec 2 matchs en retard par rapport à Manchester City, qui est 4e. Non, 1 match en retard par rapport à Manchester City, et 2 matchs en retard dans l'absolu pour les Red Devils. Manchester City pour l'instant est 4e, avec donc un match en moins par rapport au nombre de matchs qu'il faudra avoir disputé en théorie.
D'accord.
Bref, en gros, le Big Four s'approche. Est-ce que c'est encore possible?
United est donc 4 points de retard sur la 4e place. Voilà. Aujourd'hui, United est sur 22 rencontres de suite sans défaite. Donc la constance, le terme utilisé par Gilles Verdez en championnat, évidemment, ouais. La constance, elle est là. Déjà, cette équipe ne perd plus. Donc en termes de confiance, c'est important. Et United, surtout, a des fulgurances offensives qui est particulièrement intéressant. Il y a un City United dans une dizaine de jours, le 27 avril. Ce match va être le tournant. Très clairement. Si United réussit à s'imposer à l'Etihad, eh bien là, oui.
Marc, je vous ai coupé la parole juste avant. Vous les voyez revenir, ces mancuniens?
Ils sont capables. Non, mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Mais c'est vrai que moi, je voulais dire sur Chelsea, qui, quand on voit le début de rencontre et qu'on voit Diego Costa qui, dès le départ, commence à mettre des coups de coude, à s'énerver, il n'y a plus de match.
Là, c'était le mauvais Diego Costa.
C'est le mauvais Diego Costa et on sait que Chelsea n'est pas. Il suffit que Costa.
Mourinho le connaît bien. Donc peut-être qu'il a joué sur ses points faibles.
Mais justement, il est allé le chercher. C'est le défenseur mancunien, je ne me rappelle plus, qui a pas arrêté de le brancher l'argent.
Marcos Rojo.
Voilà, qui n'a pas arrêté de le brancher. Et à partir de là, il n'y a plus de match. Au bout de 5 minutes, on le voit, coup de coude, il lui tombe dessus, il veut lui mettre de la gifle fessier là. Et là, Hazard a besoin de ce point de fixation, a besoin de Diego Costa. Diego Costa qui va presser, il est sorti de son match dès le départ. Et ça, Mourinho l'a profité. Attention, Mourinho, je pense qu'il fait quelque chose aussi. Il prépare un coup pour la Ligue Europa. Attention, voilà. Parce que là, on dit, ouais, mais, il est allé chercher. S'il perd, il nous dit, oui, mais attendez, Ligue Europa, on veut la gagner parce qu'elle peut être une place qualificative pour
exactement,
la
Ligue Europa. Exactement, j'allais vous le dire. Donc, c'est la 5e place qualificative pour la Ligue des Champions.
Plus peut-être que par l'intermédiaire direct du championnat, même si ça lui déplairait pas de devancer le Manchester City, de Guardiola in fine, c'est via la Ligue Europa Mourinho a envie d'accéder à la Ligue des Champions. Parce que voilà, ils sont à quelques encablures de la fin. Très franchement, il y a un beau plateau, mais qui n'est pas extraordinaire. Et Manchester United en est quand même le favori. Mourinho est très malin et il sent que à travers cette compétition, il peut accéder à la prestigieuse Ligue des Champions dont il rêve.
À ce qui était dit sur Mourinho il y a encore quelques semaines et sur le début de son aventure,
la saison au niveau du jeu.
Oui, mais ça peut se terminer par
Tottenham
par des titres tout simplement, et éventuellement une place dans le Big Four.
Après c'est j'ai presque envie de dire la patte José Mourinho, pas forcément très beau par moment et même régulièrement et tout au long de sa carrière au final. Mais cette année c'est une victoire en finale de Coupe de la Ligue, vous êtes en quart de finale de l'Europa League avec un match retour sur votre pelouse.
direct. Hein.
Exactement. Vous êtes également en phase, en passe, pourquoi pas, d'atteindre le Big Four. 22 rencontres d'affilée sans perdre. Enfin, à un moment donné.
Salim, il est juste en position. Je vais gagner un titre. Je vais chercher cette Ligue Europa. Lui, aujourd'hui, il est simplement dans cette posture-là.
C'est ça.
Tu vas dire à Ibra, le gros match de Chelsea qu'on a regardé, Ibra, tu joues pas parce que j'ai pas envie. Ben non, il y a Anderlecht, tu vas gagner la Ligue Europa avec moi. C'est comme ça que tu vas le chercher.
Surtout qu'Ibra, il a jamais gagné la Coupe d'Europe. Donc on lui dit, exactement. Écoute, avec moi, tu vas la gagner la Coupe d'Europe.
Et l'autre te croit en plus. Oui, il est capable, parce que quand tu vois les équipes qui restent, sans faire offense à Lyon, à Besiktas, à tout ce qui reste, tu dis, ben finalement,
Celta Vigo gagne.
Celta Vigo, je pense qu'on peut y aller, quoi. Ben oui.
Il faut quand même pas oublier non plus que Arsenal est largué, que Liverpool est largué. Donc la cinquième place de Manchester United, c'est le strict minimum. Vous disiez en quelque sorte Mourinho finalement, oui, mais en championnat c'est pas brillantissime. Hein. Vous avez Tottenham, bon qu'on attendait peut-être pas là, mais voilà Manchester United est normalement avec Mourinho, avec Ibra,
Liverpool, eux ils ont discuté le nombre de matchs qu'il faut.
Ils auront tous le même nombre de matchs, rassurez-moi.
Oui, logiquement.
Bon, mais franchement, il y a des places à prendre. La place de Manchester United, elle n'est pas le reflet d'une saison extraordinaire quand même. Hein, franchement, voilà.
Peut-être un dernier mot justement sur Liverpool, Salim. Victoire 1-0 à West Bromwich Albion. Rien d'extraordinaire, mais faut se faire à la vie sans son meilleur joueur
sans Sadio Mané
de Liverpool.
Qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, lui qui s'est blessé lors du derby face à Everton. Mais sans lui, il y a un autre homme qui se révèle important, c'est Roberto Firmino, le Brésilien. Deux buts sur les deux derniers matchs et deux buts clés à chaque fois pour une victoire à Stoke, est donc là à West Bromwich Albion, donc 6 points pris. Et Liverpool en 33 matchs, puisqu'ils en ont joué 33, c'est 66 points pris. L'année dernière, qui avait été une saison totalement ratée, c'était 60 points sur toute la saison. Donc là, on est largement au-dessus, on revient, j'ai envie de dire, à la normale pour cette équipe de Liverpool.
Sauf que moi je suis déçu par les performances de Liverpool. Je voyais Klopp réaliser des miracles, on constate que c'est pas Dr Miracle non plus.
Je mets au même niveau Marseille Liverpool, vous rassurez-vous, supporters de Liverpool, ce n'est pas le cas en fait.
Tu me fais vraiment plaisir, Salim.
Parce que les soucis défensifs de Liverpool sont colossaux aussi. On a tendance à l'oublier.
C'est clair.
Mais défensivement, il y a des joueurs quand même qui font un peu penser à ceux de Marseille. Pas à ce point-là quand même, hein, parce que Marseille, on est encore en dessous défensivement.
Exactement.
Mais c'est aussi là qu'est le problème de Liverpool aujourd'hui.
Bon, je vois que vous n'aimez pas les défenses perméables, vous n'aimez pas les buts. Bah, vos vœux sont exaucés. Je vous emmène au pays du Catenaccio pour finir.
Parte il cross, attenzione, colpo di testa, Zapata, pallone salvato,
e gol.
Attenzione, rete per Orsato, il pallone è entrato, dice che è tutto in tempo, incredibile finale, al 97esimo.
Ah ben voilà, même en Italie, ils sont tellement bons les défenseurs que ce sont eux qui s'occupent de marquer. Avec une goal line technologie bien exposée à l'heure chinoise, le Colombien du Milan AC, Zapata, qui égalise dans le premier derby sino-milanais de l'histoire, puisque désormais les
sino-chinois
deux clubs
sino-chinois plutôt.
Sont,
sino-chinois, pas sino-milanais. Hein, c'est 100%
cas,
chinois.
Pour l'instant, ils portent encore le nom Milan, mais peut-être que ça pourrait évoluer. Ça pourrait évoluer à l'avenir. Alors, je vous raconte quand même ce but de Zapata, hein. Le ballon touche la barre avant de rentrer, on est à la 97e minute, ouais. Le Milan qui a un temps été mené 2-0 revient à 2 partout avec ce but, donc barre ça rentre, en tout cas c'est ce que nous confirme l'arbitre de la rencontre en montrant, l'image est sympa en montrant montre aux joueurs, pas de contestation, c'est plutôt propre. Est-ce que c'est ce qui nous a interpellé quand on pensait à cette émission, est-ce que c'est une bonne publicité pour la goal line technologie?
Non mais là votre débat est biaisé, donc je vais répondre à votre question.
Si
vous le prenez comme ça, oui, mais c'est complètement absurde. Pourquoi doit-on avoir besoin de la Golden Technology pour savoir si le ballon est rentré? Il suffit de voir s'il est rentré ou non. Regardez, il y a eu un match de rugby là avec Toulouse. Il y a l'arbitrage vidéo dans le rugby. Malgré ça, toutes les décisions de l'arbitre, des essais accordés, refusés, sont contestées après le match de Toulouse. Toutes les décisions. Donc, votre vidéo, vous allez la voir, vous la voulez. Vous aurez bientôt la vidéo pour tout.
Non,
vous aurez même
ça va trop vite.
Vous aurez même des coupures publicitaires au milieu, ça vous ira. Et ben moi ça me va pas.
Non.
Je ne vois pas pourquoi il y a besoin
alors,
de tout ça.
Alors la vidéo, la goal line technology, c'est pas la même chose.
Il y a jamais eu d'erreur. Il y a jamais eu d'erreur sur la goal line technology. On n'a jamais vu
c'est le début de la fin.
Mais encore dans 10 ans, la technologie partout. Heureusement qu'il y a des buts qui sont acceptés alors qu'ils devraient être acceptés.
Là on parle d'un très gros match avec une exposition donc nouvelle, matchs joués à midi
pour
l'Asie. Deux grands clubs historiques, un match extrêmement important. Et voilà, c'est réglé, c'est net, c'est précis.
Oui, c'est biaisé votre débat. C'est vite. Vous prenez parti.
Je me fais un petit peu l'avocat.
Non, on parle de la Golden Technology. Je parle pas de l'arbitrage.
Mais c'est le début, la Golden Technology. C'est le début de toute la vidéo. Vous le savez très bien.
En quoi? Une limite. Il y a des limites très claires, Gilles.
C'est quoi la limite? Il n'y en aura pas. C'est, ouais, le début, c'est le début, c'est le début.
Regarde à la vitesse grand V, tu dis on peut le voir, mais non, des fois on peut pas le voir dans l'histoire du foot.
Il y a tellement de buts qui ont été refusés,
il y a tellement d'erreurs. Le ballon est rentré, on a dit ah, là au moins en quelques secondes. Et tu as bien vu les joueurs de l'Inter, les supporters, ça s'est arrêté net. Ils ont vu le mec, ça a sonné sur la montre, but. Et ça calme tout. Mais t'imagines si là, imaginons, il y a pas la Golden Technology, il accepte le but. Peut-être il a raison ou il a tort, mais ça part dans tous les sens. Là, ça calme tout. Mais ça a duré quoi? 3 secondes?
Mais vous avez bien vu qu'au niveau des matchs internationaux de l'équipe de France, on commence à avoir d'autres vidéos.
C'est la logique. Mais c'est la logique. Ah bah, il
vous
le
êtes
faut.
Pour le tout vidéo,
mais
d'accord.
Mais oui, il le faut.
Et les coupures pub au milieu, comme dans le football américain, pendant que l'arbitre vérifie.
Mais
non, bah vous l'aurez.
Mais
vous l'aurez.
Pas du tout.
Je vous la donne.
Bah pas allez, du tout. Rapidement, ce derby milanais, avec des investisseurs chinois qui désormais veillent sur leurs intérêts, vous en avez pensé quoi?
Alors, certes, un derby très agréable, même alors que l'Inter menait 2-0, dans cette
partie.
Oui,
c'est ce que
l'Inter n'aurait jamais dû s'incliner ainsi dans cette rencontre. Après, on attend beaucoup des investisseurs chinois de part et d'autre la saison prochaine surtout, puisque là on a l'impression qu'ils doivent surtout finir cette saison, puisque il y a des chances que les deux équipes ne soient pas en Ligue des Champions la saison prochaine.
Ça c'est sûr.
Voilà, c'est quasi sûr d'ailleurs. Les investissements la saison prochaine, et là on verra d'ailleurs en Angleterre, on parle beaucoup de Cesc Fabregas qui pourrait quitter son club de Chelsea pour aller à l'AC Milan. On attend ce genre de renfort, ce genre d'investissement de la part de ces investisseurs, et là on pourra pourquoi pas parler de grandes équipes.
Je pense que ça va être un petit peu la folie de cette équipe, puisque la plupart de tous les clubs anglais, la plupart, on l'a entendu encore ce week-end chez vous, chez SFR, il est annoncé à l'Inter, il est annoncé à l'AC Milan, tous les joueurs vont être, ça va être le nouvel Eldorado.
C'est vrai. Et pour l'instant, c'était un match entre le 7e de Serie A, l'Inter Milan contre le 6e de Serie A, le Milan AC. On espère quand même que ces deux grands clubs vont se réveiller. Merci Marc Libra, Gilles Verdez, Salim Bangali. Radio Foot continue toute la semaine avec également la Ligue des Champions, Monaco Dortmund sur RFI. Très bonne semaine, très bonne soirée.